Bonjour tout le monde. Content que vous êtes avec nous ce matin. Nous allons terminer notre étude prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume du Christ et de l'état éternel. Voilà, on va commencer l'étude ce matin, la prédication. Donc, aujourd'hui, le parcours prophétique depuis le retour de Jésus jusqu'à l'éternel, va se terminer. Tous les sujets prophétiques, bon, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas parlé de toutes les choses dans la prophétie. Ce serait une très, très, très grande étude. J'espère au moins avoir touché sur les sujets principaux. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je reviens sur ce verset à la fin du message. Mais pour le moment, je voudrais focaliser sur le mot espérance. Les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Le mot espérance dans ce verset fait référence à ce que nous attendons de la part de Dieu. Les choses que Dieu a promis dans sa parole. Donc, nous focalisons globalement sur l'espérance. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Quelles sont les choses que Dieu a promis aux croyants? Donc, ceci est la phase finale de la prophétie de Daniel. Donc, je me mets un peu sur le côté. Vous voyez, donc, on avait parlé de Daniel chapitre 2. Et la cour de la civilisation depuis Nebuchadnezzar jusqu'à aux alliances finales, donc l'époque, dans les 7 années de la tribulation, il y a une pierre qui se détache sans l'aide aucune main, qui frappe, donc, le cours de la civilisation, la statue, qui disparaît, qui devient une montagne, on va parler de cette montagne, qui devient un royaume, un royaume sur la terre entière, et qui passe dans l'état éternel, au-delà, donc, le temps et puis l'éternité. On voit la même chose sur le tableau. Je ne suis pas absolument sûr que l'objectif est bien focalisé là-dessus. Et vous avez l'éternité de chaque côté. Vous avez le parcours de notre planète, notre civilisation, tout ce qui s'est passé sur la planète dans le passé. Nous sommes ici dans la période de la grâce. Il y a la tribulation devant nous. On a déjà parlé de tout ça. Maintenant, on va parler du royaume millénaire et le royaume au-delà du temps. Donc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'état éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 9, il dit dans ce verset que Dieu a préparé des choses pour nous, pour ceux qui aiment Dieu. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont donc des choses formidables et merveilleuses qui nous dépassent. Même si nous ne pouvons pas imaginer la gloire à venir, le fait d'être chrétien biblique, non pas simplement chrétien de tradition, mais chrétien biblique, nécessite de croire à un avenir sur la terre et aussi dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, beaucoup de monde est familier avec l'idée d'un paradis céleste. Je ne vais pas entrer dans ce que chacun pense de cette idée-là, mais beaucoup de monde a quelconque idée. Mais peu de monde comprennent la nécessité du royaume millénaire de Christ. Le règne de Dieu sur la planète est nécessaire, comme un contrepoids dans une balance cosmique, alpha et oméga. Beaucoup de monde maudissent Dieu en disant que si Dieu existe, ou si Dieu est bon, la souffrance, ni la maladie, ni la méchanceté, ni la mort, etc. Ils oublient que ces choses existent à cause du péché, et que depuis le péché est entré dans le monde, eh bien, notre monde est soumis au prince des ténèbres. Nous sommes sur une planète mortelle. Mais, pendant le royaume, quand Dieu va régner sur la planète, tout cela va changer. Ainsi, le fond de ces plaintes est l'idée que Dieu devrait régner sur la terre. Et quand Dieu règne, tout doit bien aller. Et c'est cela qui va se passer pendant le royaume. En régnant sur la terre, Dieu va exaucer les désirs de justice et de prospérité que recherche l'humanité. Il faut que le Christ règne sur la terre. Tout le monde est familier avec la phrase dans la prière de Jésus, que Jésus a enseignée aux disciples, « Que ton règne vienne ». Dans cette prière, le règne de Dieu est toujours à l'avenir. Le règne n'est jamais acquis. Enfin, pas pendant nos prières. Que veux-tu dire? Que ton règne vienne. Quel règne doit venir? Ceci ne parle pas de son règne dans nos cœurs, mais d'un royaume qui doit arriver dans l'avenir. Jésus parle de son règne sur la terre. D'après les prophéties dans l'Ancien Testament, le royaume messianique, quand Dieu va régner sur sa création. C'est ça qui veut dire que ton règne vienne. Commençons par la lecture de quelques prophéties que nous avons déjà abordées dans les autres messages. Donc, dans ces prophéties, Dieu a promis à Israël la résurrection, un territoire, la paix et la sécurité. Voici la promesse que Dieu a donnée à Daniel avant de mourir. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. » Donc, marche vers la fin de ta vie, tu vas mourir. « Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Il sera ressuscité et debout pendant le royaume du Christ. Nous voyons aussi dans Jérémie, donc on a vu Jérémie 30, chapitre 30 la dernière fois, donc j'ai sélectionné quelques versets. Verset 3. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Ils le posséderont. » Verset 9. « Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. » Verset 10, à la fin, « Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » Donc Jacob, ça représente le pays d'Israël. Verset 22, « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Et puis verset 24, à la fin, « Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Dans ces deux passages de Daniel et de Jérémie, Dieu parle de son royaume messianique. Il y a de nombreuses autres prophéties dans la Bible qui parlent de ce royaume messianique, comme Ésaïe chapitre 11, chapitre 12 et plein d'autres passages. Regardons dans Zacharie chapitre 8, ce n'est pas nécessaire de tourner, mais c'est chapitre 8, versets 3 et 4. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. C'est intéressant, Dieu, il veut régner à Jérusalem. Il veut le faire. Jérusalem sera appelée une ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel, des armées, donc sera appelée Montagne Sainte. Donc, regardez ici, la montagne. On a parlé de montagne plusieurs fois. On verra, la montagne sainte, c'est la ville de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Là, comme nous allons voir plus tard, Zacharie parle ici des grands âges, comme dans Genèse, chapitre 5. Aussi dans Ézéchiel, chapitre 36 et 37, nous on va focaliser sur chapitre 36 et les versets 22 à 38. Verset 22, Ézéchiel, chapitre 36, verset 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. C'est-à-dire, Dieu s'est fait des promesses à lui-même aussi, et il va faire le nécessaire pour que son nom, sa personne, soit respectée par l'humanité. Donc, son saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom. Je saute un peu. Et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ici, on parle d'un grand nombre de Juifs qui vont se convertir pendant la tribulation et juste à l'arrivée de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, Israël. C'est une promesse. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Jamais ces promesses n'étaient jamais accomplies. C'est toujours quelque chose que Dieu doit faire. Il parle du royaume messianique. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Donc là, on parle d'une abondance spectaculaire. Au verset 32, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Donc il veut que tout le monde soit clair. Ce n'est pas à cause de l'humanité ou des Juifs que Dieu va accomplir ses promesses. C'est à cause de lui-même. Il va se faire respecter parce qu'il a fait des promesses. Après, il dit, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Alors, il faut imaginer que quand on entre dans le millénium, il y a les mortels qui vont commencer ce millénium, mais ils vont se souvenir de leur passé pendant et avant la tribulation. Et ils auront honte. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Là, on parle de la restauration de la nature après la tribulation, donc au début du millénium. Et ces villes ruinées, désertes, abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Je viens de vous lire quelques-unes des promesses que Dieu a faites aux croyants en Israël, les Israélites croyants. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est ça que Dieu a dit. Il est fidèle. Il tient ses promesses. Il établira son royaume millénaire. Mais Dieu a aussi fait des promesses aux chrétiens. Comment va-t-il faire pour accomplir ses promesses? Pour répondre, je vais suivre l'ordre dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, verset 1, jusqu'au chapitre 22 et verset 5. Donc, je voulais vous montrer brièvement un panneau. Donc, c'est une chronologie de l'Apocalypse, parce qu'il y a un ordre dans l'Apocalypse. Et pour bien comprendre ce livre, il faut capter l'ordre qui est dans le livre. Donc, il y a chapitre 1, l'introduction. Chapitre 2 et 3, Christ au milieu des églises. Chapitre 4 et 5, c'est une, on pourrait dire une parenthèse dans les lieux célestes. Mais c'est assis ici. Après, chapitre 6, c'est l'aperçu de la tribulation. Après, on saute au chapitre 19. Pourquoi? Parce que chapitre 7 à 18 sont des parenthèses et des détails. Donc, la chronologie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. L'arrivée de Christ, donc l'avènement. Chapitre 20 que nous voyons aujourd'hui, le règne de Christ. Et chapitre 21, 22, le jugement final et l'état éternel. Donc, je vais lire dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6. Donc, chapitre 19, Christ est arrivé. Il a terminé, on peut le dire, la tribulation. Maintenant, il est arrivé. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, donc la bête c'est l'Antichrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque, donc la marque de l'Antichrist, sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, c'est-à-dire les condamnés, les gens qui vont être en enfer, ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, quand les croyants étaient ressuscités, donc, il dit ceci, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, dans ces versets, Dieu va établir un royaume sur la terre. La première chose que Dieu va faire, eh bien, il va enchaîner Satan pour qu'il n'embête personne pendant les 1000 ans. Alors, il est net, c'est clair, ce royaume va durer 1000 ans. Dieu aurait pu simplement dire une fois que c'était 1000 ans. Le mot 1000 ans, ça c'est le mot millénium, 1000 années. Mais non, Dieu, il ne voulait pas qu'il y ait de doute. Il insiste. 6 fois, il dit que le royaume de Christ va durer 1000 ans sur la terre. Par contre, ici, dans l'Apocalypse chapitre 20, il y a très peu de détails sur le millénium. Pourquoi? Parce que ces détails sont abondants dans l'Ancien Testament, dans les prophéties. Donc, quelque part, on voit ici la réponse de Jésus à la question des disciples dans chapitre 1, Actes chapitre 1, quand les disciples ont dit, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus a dit à ce moment-là, « Écoute, ça ne te regarde pas, je vais le faire quand je vais le faire, c'est entre les mains de Dieu. » Et ici, il parle de, voilà, comment il va faire pour établir son royaume. Je reviens au verset 6. « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. » Donc, je vous rappelle des autres messages que la première résurrection, Jésus, la prémisse, les saints de l'Ancien Testament, les chrétiens et les martyrs de la tribulation, tous les quatre sont ressuscités à la vie. Ils ne sont pas ressuscités pour aller en enfer, mais ressuscités pour aller dans la présence de Dieu, bien sûr. Donc, tout cela, tous ces gens-là seront dans le royaume et seront dans l'état éternel. C'est ça que le texte veut dire, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Dans Daniel, chapitre 2, donc on a cet texte, dans le temps de ces rois, donc, oui, je ne sais pas si vous le voyez, là ça, les alliances finales, dans le temps de ces rois, ok, et en particulier c'est Apocalypse chapitre 19, dans le temps de ces rois, donc à la fin de la 17e semaine de la prophétie de Daniel, la fin de la tribulation, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, il parle du début du millénaire, donc le début à Jérusalem qui remplit toute la terre et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, donc il n'y aura pas un peuple qui va remplacer Jésus et son royaume. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, donc tous ces royaumes-là, à son événement décrit dans l'Apocalypse 19, et lui-même, ce royaume-là, subsistera éternellement, en parlant du royaume messianique, mais transporté à l'état éternel. Verset 45, Daniel 2, 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile et l'argent et l'or. Donc, quand Jésus détruit tout ça, il veut dire toute la civilisation humaine qui était anti-Dieu, bien sûr, qui va disparaître parce que Jésus va remplir avec toute la terre avec son royaume. Et bien sûr, dans cette déclaration, on a déjà vu que ce royaume va subsister éternellement. Donc, au-delà du royaume de Christ, il y a le royaume éternel, comme on voit ici, le royaume millénaire et le royaume au-delà des temps. Dans Daniel chapitre 7, verset 18, nous lisons, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume. » En parlant du millénaire. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité, en parlant de l'état éternel. Comment se fait-il que le royaume est éternel? Par cette idée-là, Daniel veut dire que le royaume commencera sur la terre pour, j'en ai dit, une durée de 1000 ans, puis il sera transporté dans la nouvelle création pour durer éternellement. Donc, je vais relever 9 points dans ces idées-là. Donc, avant d'installer son royaume millénaire, Dieu doit restaurer la nature. Nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, les ressuscités. Car la création a été soumise à la vanité, verset 21, avec l'espérance qu'elle, la création, aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons dans ces versets le renouvellement de la nature. Dieu va restaurer la nature et les cieux qui avaient été abîmés à travers l'histoire de notre planète et encore plus pendant la tribulation. Il va les restaurer à l'état d'origine comme Éden, afin que les habitants du royaume puissent vivre dans un monde parfait, semblable, comme j'ai dit, au jardin d'Éden. Deuxième point, les ressuscités. Donc, nous avons déjà parlé de la résurrection à la vie, qui aura lieu, comme je vous avais montré tout à l'heure, en quatre actes avant le royaume du Christ. Je reviens sur ce sujet pour donner quelques détails. Les ressuscités sont des immortels. Immortel veut dire ne peut plus mourir, les immortels. Ils ne pourront plus pécher. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, ils ne pourront plus jamais mourir. Le corps ressuscité sera semblable au corps ressuscité de Jésus. Nous aurons donc les capacités physiques différentes, augmentées, supérieures, y compris une pleine connaissance, comme nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Donc, les anciens miroirs, c'était le bronze qui était bien poli, hein, d'une manière obscure. Mais alors, quand nous serons dans la présence de Dieu, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, à ce moment-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Troisième point, les mortels. Dans le millénium, il n'y aura pas seulement des immortels, il y aura aussi les mortels, les gens qui sont, bien sûr, comme vous et moi. Selon Matthieu chapitre 24, Dieu a fait exprès de raccourcir les années de la tribulation à 7 années, afin qu'il y ait des survivants. Les convertis de toutes les nations qui auront pu rester en vie jusqu'à la fin de la tribulation feront le repeuplement de la terre. Comme j'ai dit l'autre fois, ils seront un peu comme les Noé, les futurs Noé. Okay? Ce sont ceux qui ont pu persévérer jusqu'à la fin. Donc ces gens-là, Dieu prolongera leur vie, hein, la vie de ces mortels, rescapés de la tribulation. Il leur donnera une santé parfaite, un environnement parfait et une parfaite écologie. La durée de vie sera de 1000 ans pour tous ces gens, comme à l'époque citée dans les premières pages de la Genèse. De plus, avec le diable lié pendant tous les 1000 ans, eh bien, il y aura beaucoup moins de tentations pour pécher. Lisons la prophétie dans Ésaïe, chapitre 65. Je pense que je vais lire la plupart des versets jusqu'au verset 25. Ésaïe 65, verset 19 à 25. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. » Donc, dans le millénium, il n'y aura que le bonheur et la joie sans aucun malheur. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Qui veut dire que la mort sera réservée aux grands pécheurs. Donc, ils bâtiront, verset 21, ils bâtiront des maisons et habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habitent, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Donc il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la prospérité. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Donc, à penser, par exemple, à l'arbre Ifs. Hein? La durée de la vie sera aussi longue, tant aussi longue que les vies, que les arbres millénaires. Hein? Parce que c'est le millénaire. Et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, aucun enfant ne mourra à travers la naissance. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc, on voit la réponse à la prière. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le verbe. Paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Normalement, on pense que ce sont des carnivores. Hein? Mange la viande, mais non. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. En fait, ce verset veut dire que la malédiction sur la nature est enlevée. Et quand on est revenu à cet état d'Éden, eh bien, les animaux, comme les hommes, mangeaient des fruits et des légumes. Donc, les animaux qui sont en notre moment féroces seront aussi des animaux dociles qui sont herbivores. À cette époque-là, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, pour dire qu'il n'y aura pas de méchants. Donc, pendant ce temps-là, personne ne mourra, sauf celui qui aura commis des péchés en public contre des autres personnes ou contre Dieu. Il n'y aura pas de chômage. Tous adoreront le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la santé, la vie, l'abondance, l'absence de maladie, l'absence de méchanceté. L'humanité sera réconciliée avec les animaux et avec la nature. Quatrième point. Il y aura à Jérusalem un temple millénaire. Donc, Ézéchiel chapitre 40, au chapitre 48 que vous pouvez lire chez vous, dans la tranquillité de votre maison, eh bien, donne beaucoup de détails sur ce temple et le service du temple. L'image de ce temple et jardin donnée dans Ézéchiel chapitre 47 chevauche avec l'image présentée par Jean dans Apocalypse chapitre 21 que nous allons lire tout à l'heure, où les deux descriptions parlent de cette rivière bordée d'arbres multifruits. La grande différence, c'est que dans l'état éternel d'Apocalypse chapitre 21, il n'y aura pas de temple. Donc, en Ézéchiel, c'est à propos du temple et ça parle du jardin, cette rivière avec les arbres. Mais dans l'état éternel, il y a toujours la rivière et les arbres. Mais il n'y a plus de temple, car Dieu lui-même sera le temple dans l'éternité. Nous notons aussi que le fleuve dans Ézéchiel continue à couler dans l'éternité, car c'est l'Esprit de Dieu. Au moins, ça représente l'Esprit de Dieu. Cinquième point, et je vais vous lire donc dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, encore 1000 ans, donc on insiste, hein, au début du 1000 ans, le diable était lié, et maintenant Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent la ville, le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisit, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, à la fin des 1000 ans, le diable, il est déchaîné pour donner aux multitudes une opportunité. Non pas une opportunité à pécher, mais une opportunité pour manifester leur confiance en Jésus-Christ et leur amour pour lui. Mais non. Ils vont faire le contraire. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin, où Adam et Ève auraient pu montrer leur confiance envers Dieu et leur amour continu, eh bien non, ils ont choisi de faire le mal. Et donc une grande majorité des mortels se rebelleront contre le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera la rébellion finale. Alors la question se pose, ben, d'où viennent toute cette foule des gens qui sont comme dans le sable de la mer? Ben, ce sont les descendants des croyants rescapés de la tribulation. Comme aujourd'hui, bon, c'est même pendant le millénaire, c'est même aujourd'hui, les enfants ne sont jamais sauvés sur la base de la foi de leurs parents. Chaque personne doit croire en Seigneur Jésus-Christ pour son sauveur, ou il sera perdu. Les enfants ne peuvent pas compter sur la foi de leurs parents. Alors, si on continue la lecture, ce que nous n'allons pas faire pour le moment, dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, nous voyons le jugement dernier, donc un sujet que nous avons déjà traité dans un autre message. Donc je continue, je saute au chapitre 20, où nous allons parler du sixième point, donc la nouvelle création. Et je vais lire chapitre 21, verset 1 au verset 7. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 et versets 13 et 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. La nouvelle création n'a aucune connexion physique avec celle d'à présent. Le royaume sera transporté au-delà du temps pour entrer dans l'éternité. La création actuelle disparaîtra, entièrement détruite, consumée par le feu. Ésaïe 65, verset 17-18 déclare, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'ivresse à cause de ce que je vais créer. Donc, cette nouvelle, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Seul un Dieu créateur tout-puissant pourrait faire cesser l'existence d'un univers et d'en créer un autre. Les témoins de Jéhovah et les adventistes se trompent en enseignant à tort que cette terre actuel et l'univers actuel seront rendus éternels. Non. Hébreux chapitre 12, versets 26 et 27 dit, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, verset 27, « Une fois encore » indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, donc c'est-à-dire notre existence actuelle était faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent, c'est-à-dire les choses éternelles qui vont remplacer les choses actuelles. Et 2 Pierre chapitre 3, verset 10 dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le septième point. Regardons maintenant la nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle. Alors, pour faire ça, je demande à Sophie de faire la lecture. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au 22, verset 5.
Donc voilà la description de la Nouvelle Jérusalem. Puis, un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Elle avait une grande et haute muraille, qui avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades de la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de célédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles.
La nouvelle Jérusalem descendra du ciel d'auprès de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob attendaient la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 10. La nouvelle Jérusalem est la cité céleste que Abraham cherchait, la demeure éternelle que Jésus nous a promise. Il y a de la place, elle a lu. X stade, ça veut dire 2000 kilomètres de chaque côté, que ce soit une grande cube ou une pyramide. Eh bien, 2000 kilomètres de chaque côté, quand vous mourrez, vous irez dans la Nouvelle Jérusalem. Elle existe déjà, mais elle est dans les lieux célestes, vous ne le voyez pas. En revanche, pendant le millénium, elle sera présente et visible. Elle est la demeure des ressuscités immortels pendant la millénium. Mais elle n'est pas la demeure des mortels. Les mortels vivront sur la terre dans les maisons qu'ils construiront. La Nouvelle Jérusalem sera présente aussi bien pendant le millénium que dans l'état éternel. Donc dans les descriptions inspirées, nous avons lu, il y a les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ainsi, tous ceux qui auront été ressuscités, tous ceux qui auront été sauvés de l'histoire de la terre, y seront. C'est pour cela que les chrétiens qui veulent exclure les juifs de la Nouvelle Jérusalem ont tort. S'il n'y a point de juifs, il n'y aura pas non plus les apôtres, ni même Jésus, car Jésus et les apôtres étaient juifs. Jésus a parlé de la Nouvelle Jérusalem dans Jean 14, 12. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Il prépare votre place aujourd'hui. La Nouvelle Jérusalem est pour tous ceux de la terre qui ont été racheté. Elle est le paradis. Elle est la paix. Elle est un palais. Elle est une patrie. Elle est la perpétuité à notre place éternelle. La Nouvelle Jérusalem sera construite sur du jaspe pur et différentes pierres précieuses l'orneront. Alors j'ai ce tableau pour vous montrer. Et le point ici, c'est seulement pour montrer que quand on parle de ces divers minéraux, eh bien, il faut capter les couleurs. Le ciel, le paradis, la Nouvelle Jérusalem sera extrêmement belle, une beauté spectaculaire. Okay? C'est pour cela qu'il parle de toutes ces pierres. Donc, sur cette image, c'était les diverses pierres Pierre qui était mentionné dans l'Apocalypse chapitre 21. Eh bien, comme Sophie a lu tout à l'heure, il y aura de l'or en abondance, d'une pureté parfaite, et les portes de la ville faites de perles gigantesques. Les arbres auront des fruits différents tous les mois. Alors, c'est spectaculaire. C'est pour ça qu'il dit, on peut pas même imaginer ce que Dieu prépare pour nous. Huitième point, dans le nouvel Jérusalem, il y aura Dieu, la Trinité. On le voit bien, le trône, l'agneau et le fleuve représentent ensemble la Trinité. La personne et la présence de Dieu sera parmi nous, Emmanuel. Dieu, il est l'être auto-existant. En toute chose, il est le modèle ultime et parfait. La beauté, l'intelligence, la richesse, la puissance, la sagesse, la justice, l'amour. Être avec Dieu, c'est avoir tout. Et puis le neuvième point, c'est plutôt une question, connaîtrons-nous nos bien-aimés et les autres croyants? Jésus dit que Dieu est le Dieu des vivants, tels que Abraham et Isaac, et non pas le Dieu des morts. D'autres versets, comme les versets de la Transfiguration, montrent que dans l'éternité, les gens se reconnaissent et s'entretiennent les uns avec les autres. Le professeur Schaeffer a écrit, « Chaque tentative pour décrire les gloires du ciel épuise en un instant toutes les possibilités du langage humain. Cependant, une infime portion de cette gloire merveilleuse nous est révélée. Qui pourrait comprendre le bonheur qui sera celui des rachetés dans le ciel, l'anticipation de ce lieu merveilleux? Il est caractérisé notamment par la vie en abondance, par le repos, par la connaissance, par la sainteté, le service, l'adoration, la communion avec Dieu et les autres rachetés, et enfin, par la gloire. Quel avenir éternel et glorieux Dieu nous prépare. En mourant sur la croix, Jésus a payé à ses propres frais notre billet pour le ciel. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais il ne faudrait pas y aller les mains vides. Jésus nous a exhortés d'amasser des trésors dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 20 et 21. Des récompenses éternelles. En quelque sorte, Dieu nous dit que chacun doit préparer sa valise. Au paradis, dans votre valise, donc on devrait plutôt dire votre coffre, se trouvera votre trésor, ce que vous auriez fait par amour pour Christ. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, donc on a commencé avec ce verset, on va le relire, mais focaliser sur le mot amour cette fois-ci. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, donc demeurent éternellement. La foi, donc vous allez croire en Jésus-Christ. L'espérance, donc c'est tout ce que Dieu vous a promis, donc les choses qu'on a discutées aujourd'hui. L'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est ce que vous aurez fait par amour pour Jésus et pour les autres. Paul a dit, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage par toutes ces choses qui nous préparent. Et je vais vous dire, je vous souhaite une très bonne semaine.